Bonjour, bon dimanche, vous allez bien à tout le monde.
Bonjour.
Oui, nous avons déjà chanté, nous avons loué le Seigneur, nous avons prié maintenant, demandant à Dieu sa bénédiction sur ce moment. Merci Seigneur Jésus pour ta fidélité avec nous, pour ta guidance, pour ta patience et pour l'espérance que tu communiques à nos cœurs. Merci Seigneur Jésus de bénir notre petite communauté ici dans le Lot et permet que nous puissions toujours être haut les cœurs et avec des pensées renouvelées par ton Saint-Esprit. Merci de bénir cette parole ce matin dans le nom de Jésus, aussi bien pour nous ici qui sommes là dans ce lieu de culte que pour tous ceux qui nous écoutent sur Internet. Merci de les bénir, de les fortifier dans le nom béni de Jésus. Amen.
Amen.
On fait un petit coucou à Robert.
Bonjour.
Voilà, ça fait plaisir, on sait que tu nous écoutes et que Dieu te bénisse, on t'oublie pas et on espère bientôt te voir. Voilà. Aujourd'hui, le titre de ma prédication, c'est « Dieu sait-il vraiment tout ?» Je me rappelle que à Gagnères, du temps de Teen Challenge, Bill Williams avait invité un homme qui s'appelait Mel Grams, qui nous avait fait tout un séminaire au sujet de « Dieu ne sait pas tout ». Et c'était très intelligemment présenté. Alors il nous montrait, voyez, par exemple, quand l'ange de l'Éternel a arrêté le bras d'Abraham en lui disant « Arrête, car maintenant je sais que tu... » Voilà, vous comprenez? Donc ça veut dire qu'il ne savait pas avant, etc. Bon, alors ce matin, on va voir ça. On va ouvrir nos Bibles dans Matthieu chapitre 17, verset 24. Matthieu 17, verset 24. Lorsqu'ils arrivèrent à Capernaum, ceux qui percevaient l'impôt annuel s'approchèrent de Pierre et lui dirent « Votre maître ne paye-t-il pas l'impôt annuel ?»«
Si, » dit-il.
Quand il fut entré dans la maison, Jésus prit les devants et dit « Qu'en penses-tu, Simon ?» Les rois de la terre, de qui perçoivent-ils des taxes ou des impôts? De leurs fils ou des étrangers? Il lui dit, des étrangers, c'est-à-dire des étrangers de la famille. Jésus lui répondit, les fils en sont donc exemptés. Cependant, pour ne pas les choquer, va au lac, jette l'hameçon et tire le premier poisson qui viendra. Ouvre-lui la bouche et tu trouveras de l'argent. Prends-le et donne-le pour moi et pour toi. Amen.
Amen.
Voilà, Jésus, comme tout le monde, confronté aux impôts. D'abord, il faut noter que le collecteur d'impôts n'a pas affronté directement Jésus. Il s'adresse à Pierre. Je veux lui faire crédit de cette pensée. Je pense que peut-être c'était à cause du respect que Jésus inspirait. Parce que quand même... C'est vrai que Jésus faisait des choses et disait des choses extraordinaires. Il avait peut-être dans un doute sincère dans le cœur. Et peut-être que, s'il demandait peut-être est-ce que Jésus est soumis à la taxe, puisque les prêtres en général prétendaient qu'ils en étaient exempts. On dit exempt ou exempté? Donc, je viens de voir là dans la Bible exempté. C'est pour ça que ça m'a fait le rôle. Alors bon, cette taxe annuelle dont il est question ici, elle se montait à un demi-cycle, c'est-à-dire 2 drachmes. Ça fait environ 40 centimes d'euros. Pas terrible, hein? Et tous les mâles adultes devaient, en Israël, la payer. Et cette taxe, elle existait depuis l'Exode. Moïse avait... Il avait donc prescrit cette taxe qui, à l'origine, était appelée l'argent de l'expiation. Donc, payer cette taxe, ça revêtait la nature d'un sacrifice, en quelque sorte, qu'on ajoutait en plus à tout le reste pour pouvoir être racheté des effets des péchés qu'on avait commis. Pas simplement racheter des péchés, mais des effets. Des péchés qu'on avait commis. Il semble que J'avais du retard dans le paiement de cette dette, de cette taxe. Alors, le percepteur et Pierre discutent en dehors de la maison, et puis Pierre entre dans la maison, et avant qu'il ait eu le temps d'en parler, Jésus lui demande son avis au sujet des taxes et des impôts. Simon, qu'en penses-tu? Qu'est-ce que t'en penses? Dis-moi un peu. Les rois de la terre, de qui prennent-ils les taxes? De leurs fils ou des étrangers? Et Pierre y répond, des étrangers, évidemment. Et Jésus répond, les fils en sont donc exemptés. Alors, est-ce que Pierre a compris? Je pense que Pierre a compris qu'il était illogique de demander à Jésus de payer l'argent de l'expiation. Ben oui. Ou un impôt pour l'entretien du temple, étant donné que le temple était la maison de Dieu et que Jésus était le Fils de Dieu. Pierre était très embêté. Il était très embêté parce que le percepteur attendait dehors, sûrement, hein. Et Pierre avait dit, ouais, il va payer, il n'y a pas de problème. Enfin, c'est pas écrit, ouais, il va payer, pas de problème. Mais il a répondu, d'après cette version, si, hein, en italien, vous avez vu, dans d'autres versions, c'est marqué oui, mais dans cette version, c'est marqué si. Hein. Tout d'un coup, Pierre, il se met à parler romain déjà, vous voyez. Verset 25. Pierre s'était donc prononcé sans consulter Jésus. Alors Jésus le tire d'affaire, mais pas gratuitement. Ah non, pas gratuitement. Quand on fait une boulette, il y a quand même toujours quelque chose à payer. L'argent devait être payé, non pas parce que on pouvait le demander de bon droit à Jésus, mais pour que, si jamais il n'avait pas payé, ben, qu'est-ce qu'ils auraient dit les adversaires? Ils se seraient encore offusqués, ils auraient fait tout un plat pour 40 centimes. Franchement, on n'en est pas là. Et comme Paul le dira plus tard dans sa lettre aux Corinthiens, chapitre 10, verset 32, nous ne devons pas être un sujet de scandale ni aux Grecs, ni aux Juifs, ni à l'Église de Dieu. On ne doit pas être un scandale ni aux Grecs, ni aux Juifs, ça veut dire ni aux gens de toutes les nations, ni aux Juifs, ni à l'Église de Dieu. Ça veut dire qu'il y a trois sortes. Hein. Il y a les Juifs, il y a les non-Juifs, et il y a l'Église de Dieu. Et dans les Grecs, ça comprend les musulmans, les bouddhistes, tout le monde, les Français, les... peut-être les Suisses aussi, je sais pas. Enfin bon, voilà. Et Jésus, Pierre, il avait donc fait une boulette. Il avait dit oui sans demander à Jésus. Et Jésus lui promet que s'il obéit, eh ben, il va trouver de quoi payer. Ouais, fallait-il encore obéir? L'impôt, il allait pouvoir le payer, mais l'impôt non seulement de Jésus, mais même le sien. C'est formidable. Hein, 40 centimes, Pierre, il faisait une économie. En effet, un starter, c'était 4 drachmes. C'est pourquoi il lui dit, tu pourras payer pour moi et pour toi. Alors écoutez bien les paroles de Jésus dans Matthieu 17, 27. On va le relire, je l'ai perdu, j'ai fermé la page, c'est dommage. Matthieu 17, 27, ça y est, je l'ai, merci Olivier. Et cependant, pour ne pas les choquer, va au lac, jette l'hameçon, tire le premier poisson qui viendra, ouvre-lui la bouche, et tu trouveras l'argent, prends-le et donne-le pour moi et pour toi. Pourquoi il ne dit pas pour nous? Vous voyez, dans ses rapports avec les hommes, et même avec les 12, qui étaient ceux qui lui étaient le plus cher, ses disciples, eh bien, Jésus garde toujours sa position séparée, unique, à part. Il faisait ressortir qu'il était différent. Voilà. Par exemple, quand il parle, il dira « Mon Père est votre Père ». Il va dire « Mon Dieu est votre Dieu ». Il ne dit pas « Notre Père », il ne dit pas « Notre Dieu ». Certains vont m'objecter en disant « Oui, mais quand il a enseigné la prière, oui, mais il a enseigné la prière, il a enseigné comment nous devons prier. » C'est-à-dire comment eux devaient prier. Il dit, quand vous priez, vous dites notre Père. Mais quand il parle du Père, il dit mon Père et votre Père. Et il se met à part. Ce n'était pas de l'orgueil, c'est qu'il reconnaissait respectueusement qu'il était le Fils de Dieu, dans un sens qui n'appartenait qu'à lui-même et à aucun autre être humain. Voilà. Il prend sa position. Il faut savoir prendre votre position. Pas vous laisser marcher dessus. D'accord ? Pas vous laisser humilier. Que ce soit à l'école, que ce soit au bureau, que ce soit au travail, que ce soit dans la famille, que ce soit n'importe à l'église. Votre position doit être respectée. Vous êtes un enfant, vous êtes un ado, vous êtes une personne âgée. La personne que vous êtes doit être respectée. Jésus tenait à être respecté et il le faisait bien comprendre. Alors bon, on n'est pas copain avec Jésus. Hein. On n'est pas copain non plus avec... Toujours j'étais à la banque avec Michou et puis je dis, je sais plus ce que je dis, puis il me dit, oh, de toute façon vous connaissez tout le monde. Je dis, oh, non, pas tout le monde. Ah bon, c'est qui vous connaissez pas? Je dis, le pape. Et c'est vrai, je connais pas le pape. Il y a des gens, voilà, c'est... De toute façon, même si on n'est pas d'accord avec lui, c'est quand même une autorité, c'est quand même quelqu'un. Ah bon, on va pas, c'est pas mon copain, hein. On n'est pas copain avec François Hollande. On peut le traiter de tout ce que vous voulez. Non, c'est pas bien de le traiter de flambie et tout ça. Mais je veux dire, si vous le rencontrez, vous n'allez pas lui taper sur l'épaule. Alors ma grosse, comment ça va, hein? Non, respect. Alors bon, le texte ne nous dit pas si Pierre y est allé, le texte ne nous dit pas s'il a trouvé un poisson, s'il y avait véritablement un stataire dedans. Ça n'est pas écrit qu'il a payé l'impôt avec ça. Ça n'est pas écrit. Mais c'est pas parce que c'est pas écrit que je ne crois pas. Pierre est allé à la mer. Pierre a jeté l'hameçon. Pierre a pris un poisson. Pierre lui a ouvert la bouche. Pierre a trouvé un statère dans la gueule, la bouche du poisson. Pierre a pris ce statère, puis il est revenu et il a donné au collecteur d'impôts. Voilà, je viens de rajouter à la Bible. Toutes les nouilles qui nous disent qu'il ne faut pas rajouter à la Bible. Pour réfléchir avant de parler. Hein ? Vous êtes d'accord ? La Bible dit... qu'il faut rien rajouter ni rien enlever. Les pasteurs disent, si la Bible se tait, je ne parlerai pas. Eh ben moi, je rajoute ça. La Bible dit pas que Pierre a payé l'impôt, mais moi, je dis qu'il l'a payé. Voilà. Avec cet argent qu'il a trouvé. Même si c'est pas écrit qu'il l'a fait. Moi, je dis qu'il l'a fait. Vous croyez qu'il l'a fait?
Oui.
Pourtant, c'est pas écrit dans la Bible. Vous croyez quelque chose qui est pas dans la Bible? Les vilaines. C'est pas dans la Bible, il faut rien rajouter, il faut rien retrancher. En fait, même ça, c'est une idiotie. Parce que c'est dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 22, versets 18 à 19, que c'est écrit qu'il ne faut rien enlever ni rien rajouter au livre de cette prophétie, au livre de l'Apocalypse. D'accord ? Le livre de l'Apocalypse ne faisait pas partie d'un bouquin qu'on appelait la Bible, quand ça a été dit à Jean. Mais il faut réfléchir, il faut arrêter de répéter bêtement ce que les vieux anciens, tout ça, nous racontent. Voilà. Bon, en tout cas, bon. Je suis, moi, émerveillé de savoir que Pierre a trouvé exactement ce que Jésus avait dit qu'il trouverait et comment il le trouverait. Et ça, c'est incompréhensible pour l'intelligence limitée de l'homme. Mais c'est là où je veux en venir. Jésus est Dieu et il sait tout. Il savait qu'il y avait quelqu'un qui avait paumé un statère dans le lac et qu'il y avait un poisson qu'il avait pris et il savait où il était ce poisson et que c'était ce poisson qui allait prendre l'hameçon de Pierre. Il sait tout dans les détails, les trucs bêtes même, qu'est-ce que ça peut faire ce statère dans la bouche. Il le savait. Il sait tout. Ah, ça c'est une chose intéressante. Est-ce que vraiment Jésus sait tout? Vraiment, vous croyez qu'il sait tout? Alors, pourquoi dit-il qu'il ne sait pas le jour de la fin dans Matthieu 24, 36 et dans Marc 13, 32? si c'est tout. Dans nos Bibles, vous savez, on peut regarder Matthieu 24, c'est pas loin, Matthieu 24, 36, je lis, « Quant au jour et à l'heure, personne ne les connaît, même pas les anges du ciel, ni même le Fils, mon Père seul les connaît. » Vous avez ça, c'est écrit comme ça?
Oui.
Moi, dans ma Bible, c'est écrit « Ni même le Fils entre crochets ». Pas vous?
Oui.
Ah, c'est écrit « entre crochets ». Je vous explique. Accrochez-vous. C'est pas du petit lait. Pourquoi est-ce qu'il dit qu'il ne sait pas? Dans nos Bibles, la dernière Bible, les Bibles qui viennent de sortir, ça, ni le Fils est mis entre crochets. Comment, en effet, Jésus peut-il être Dieu s'il ignore ce que Dieu sait? Il faut réfléchir. Selon Jean 1, 3, toutes choses ont été faites par Jésus. Comment Jésus peut-il connaître l'ensemble, c'est-à-dire toutes choses, s'il en ignore une partie? S'il ne connaît pas une partie? Est-ce que Dieu le Père a refusé à Jésus le Fils la connaissance de ce jour? Alors que le Fils dit, toutes choses m'ont été données par mon Père? Toutes choses, parce que s'il ne lui a pas donné la date, c'est qu'il ne lui a pas donné toutes choses. Il faut réfléchir. Par là, je vois la preuve que Jésus le Fils connaissait la date. Alors pourquoi déclare-t-il qu'il ne sait pas? Réfléchissons, c'est-à-dire, mettons-le à la chrétienne, parce que je sais qu'il y a des chrétiens pointilleux qui m'écoutent sur Internet. Méditons. Méditer et réfléchir, c'est le même mot. Hein. Vous vous souvenez qu'après la résurrection, les disciples lui demandèrent « Quand viendra ce jour ?» Vous vous rappelez de ça? Et voilà ce qu'il leur répond, acte 1, 7. Ce n'est pas à vous de connaître les temps et les moments que le Père a disposés dans sa puissance. Là, moi, Michel Janton, je vois que lui, Jésus, il sait, mais qu'il ne veut pas leur dire. Réfléchissons. Il ne sait pas ne signifie pas je ne sais pas. Mais je ne veux pas faire savoir. Il y a un autre passage où l'ange de l'Éternel, c'est-à-dire Jésus, il est bien établi que quand il est question de l'ange de l'Éternel dans l'Ancien Testament, c'est Jésus. Jésus dit à Abraham, « Maintenant je sais. » C'est dans Genèse 22, 11, 12. C'est quand Abraham offre son fils en sacrifice. Oh, est-ce que Jésus ne savait pas qu'Abraham allait obéir ou pas? Est-ce qu'il se rongeait les ongles pendant qu'Abraham était en train de monter sur le mont avec son fils? Et est-ce qu'il se disait, mais est-ce qu'il va le faire? Seigneur mon Dieu, va-t-il le faire? Ou va-t-il pas le faire? Et puis au moment où il lève le poignard, il dit, arrête, car maintenant je sais. Ah bon, il savait pas avant? Quand l'ange de l'Éternel dit, maintenant je sais, ça signifie, maintenant je te fais savoir une chose. Parce que cette épreuve ne devait rien apprendre à Dieu, mais elle avait pour but de faire savoir quelque chose à Abraham. Réfléchissons. Jésus dit, le Père seul connaît le jour. Or, le Fils est dans le Père. Et le Père est dans le Fils. Le Fils connaît le Père. Et ce que le Père sait, le Fils le sait. Puisque Jésus est le Père, dans la chair, il est Dieu avec nous. Jésus, c'est Emmanuel, c'est Dieu avec nous. Dieu le sait, donc le Fils le sait. S'il est écrit que le Fils ne sait pas, c'est parce que il ne communique pas ce savoir aux hommes. Voilà. Vous ne me croyez pas ? Je vous donne un autre exemple. On dit que Dieu sait quand il fait savoir. Comme c'est écrit dans Deutéronome 13, 4, « Le Seigneur, votre Dieu, vous éprouve pour savoir si vous l'aimez. » Est-ce que Dieu ignore si nous l'aimons? Non. On doit entendre par là que Dieu nous met à l'épreuve pour que nous sachions quel progrès nous avons fait dans notre amour pour lui. Ah, c'est très différent. On ne voit jamais aussi bien qu'à quel point on aime Dieu que dans l'épreuve. Vous ne me croyez toujours pas? Alors écoutez ça. Je crois que Dieu sait tout. Est-ce que vous pouvez dire amen?
Amen.
Je crois que le Fils est Dieu. Est-ce que vous pouvez dire amen?
Amen.
Je crois que le Fils sait tout. Est-ce que vous pouvez dire amen?
Amen.
Il connaît tout.
Amen.
Vous croyez ça? Moi, je crois ça. Osborne disait toujours, croyez-vous cela? Je crois cela. Alors, si vous croyez cela, expliquez-moi pourquoi Jésus a dit à certains, ou dira à certains, « Je ne vous connais pas », Matthieu 25, 12. C'est pas que Dieu les connaît pas. C'est pas que Jésus les connaît pas. Il connaît tout. Non, c'est pas qu'il les connaît pas. Simplement, je les ignore. Pourquoi? Parce que c'est inutile de les connaître. Mais il les connaît, mais il les ignore. Voilà. Voilà pourquoi je dis que Jésus connaît le jour, mais qu'il l'ignore, parce que c'est pas utile. Est-ce que vous me comprenez? Si vous croyez pas ça, vous limitez Dieu. Vous êtes en train de dire que Jésus sur la terre ne savait pas tout. C'est faux. C'est une fausse doctrine, c'est une hérésie. Catholique, transmis chez les protestants, transmis chez les pentecôtistes, transmis chez les baptistes, transmis chez les méthodistes, transmis chez les branhamistes, transmis chez les wesleyens, transmis chez tous les istes. C'est faux. Maintenant, cela est rétabli. Jésus sait le jour et l'heure. Il le sait. Si vous avez des oreilles, vous avez entendu ce que j'ai dit, sinon, ben tant pis, de toute façon, ça ne changera pas votre salut. Hein. Mais c'est quand même important de pouvoir glorifier notre Dieu en disant « Jésus sait tout, il a toujours tout su ». Et puis, vous pouvez toujours réécouter cet enregistrement, parce que c'est vrai, je l'avoue, c'est pas facile à avaler, c'est pas facile à comprendre du premier coup. Donc, tant que nous devons ignorer une chose, et en particulier la date, il a été dit au Fils de l'ignorer. C'est dans ce sens qu'il dit le Fils ne le sait pas, c'est-à-dire le Fils l'ignore. C'est pas que je le sais pas, c'est que je l'ignore, je ne m'en occupe pas. Je ne vous le dis pas. Je crois vous avoir démontré que Jésus sait absolument tout et que c'est pour cela que dans les bonnes Bibles, dans Matthieu 24, 36, les mots « ni même le Fils » sont entre crochets. En typographie, j'ai regardé, vous n'avez qu'à taper sur Internet, hein, vous allez savoir, en typographie, on met entre crochets ce qui n'est pas de l'auteur. Ha, 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 comme dit Philippe. Eh oui, les mots entre crochets dans la Bible sont généralement des mots qui ne sont pas avec certitude dans l'original grec, en raison des divergences entre certains manuscrits. Il y a des manuscrits où ça y est, puis des manuscrits où ça y est pas. Ça dépendait de la croyance de certains. Il y en a qui voulaient pas de la divinité de Jésus, et il y en a qui voulaient de la divinité de Jésus. Ceux qui croyaient pas dans la divinité de Jésus, ils ont mis dans le Fils, ils ont mis le Fils. Vous voyez? La parole de Dieu, c'est la parole de Dieu infaillible. Non, monsieur, dame, non, il faut réfléchir, il faut chercher, il faut comprendre, guidé par le Saint-Esprit, pour que cela nous amène toujours à Jésus, le Fils de Dieu, qui est Dieu et qui sait tout, et c'est amen, et tous ceux qui pensent moins que ça, blasphème. Peut-être sans le savoir, mais maintenant que vous le savez, arrêtez de dire que Jésus ne sait pas la date. Jésus, le Fils, sait tout. le jour de la fin, Matthieu 24, 36, il sait qu'Abraham était fidèle, Genèse 22, 11, 12. Il sait que si nous sommes fidèles, il sait si nous sommes fidèles, Deutéronome 13, 4. Il sait si nous sommes de lui ou pas, Matthieu 25, 12. Et il sait où se trouve l'argent pour payer l'impôt, Matthieu 17, 27. Vous savez pas où se trouve l'argent pour que vous puissiez payer vos impôts ou je ne sais pas quoi, Dieu le sait. Écoutez-le, il va vous le dire. Écoutez-le, il va vous l'inspirer, il va vous le dire. Le Seigneur Jésus a tout créé. Colossiens 1, verset 15. Jésus a tout créé. Il gouverne tout. Il soutient tout. La terre, le ciel, la mer, le séjour des morts. Tout est sous son contrôle. Il n'y a pas un cheveu de vivant ou de mort qui lui échappe. Tout est entre ses mains, tout est sous son regard, il sait tout, dans les moindres détails, même ses 40 centimes, là c'était 80 centimes dans la bouche du poisson, il savait, il sait tout. Tout cela, c'est dans ses mains, et toi, tu es aussi dans ses mains, il sait tout de toi, tu n'as rien à craindre, même pas la mort. Alors si tu n'as pas à craindre la mort, à combien plus forte raison, tu n'as pas à craindre les choses qui sont moindres que la mort. Question. Pourquoi Jésus fit-il un miracle pour fournir cet argent?
Oh, mais Jésus était pauvre.
Hérésie. Jésus était pas pauvre. Il avait un trésorier qui piquait dans la caisse, et il y avait tellement d'argent dans la caisse que ça passait inaperçu. La Bible nous dit qu'il se trimballe avec une de ces sommes, vous n'avez qu'à chercher, vous allez trouver. Les salaires annuels de plusieurs hommes, là. Il avait des bonnes femmes qui soutenaient Jésus, qui étaient des femmes riches, qui soutenaient Jésus, et ils avaient de l'argent. Jésus avait une robe, la dernière mode, sans couture, magnifique et tout. Oh, mais il est dans une étable, c'est parce qu'il n'y avait pas de place au Sheraton. Il n'y avait pas de place au César Palace, alors voilà. Il n'y avait que de la place dans une étable. C'est pas parce qu'il n'y avait pas d'argent, c'est parce qu'il n'y avait pas de place ailleurs, c'est tout. Puis qu'il fallait vraiment qu'elle accouche, donc hop, le premier truc qu'ils ont trouvé, voilà. Cette idée que Jésus était pauvre, mais non, il n'était pas fauché, il pouvait payer ses 80 centimes, alors. 80 centimes d'euros, il ne pouvait pas payer ça? Non, mais vous prenez Jésus, le créateur du ciel et de la terre, pour un raté, c'est pas possible. Non. La Bible nous dit que des femmes riches le soutenaient son ministère, c'est très bien. Et tout ce que vous faites au plus petit d'entre ses serviteurs, c'est à Jésus que vous le faites. Alors si vous soutenez mon ministère, vous serez aussi béni que ces femmes qui ont béni le ministère en le soutenant. Voilà, j'espère que le message a passé. Bientôt, on va mettre un système, vous allez pouvoir envoyer des dons avec PayPal sur notre site, et ça va être une bonne chose, parce que je vous expliquerai tout ça, mais ça va être une bonne chose. Et puis que bien même il aurait eu un problème financier passager, supposons, ça peut pas arriver ça, ça peut arriver que voilà, bon, on a tout ce qu'il faut, mais bon, on a un petit problème passager de 80 centimes d'euros, c'est un peu énorme, enfin bon, supposons que il ait un problème passager d'argent, il envoie ses apôtres bosser, il leur dit, tiens, tu prends ta canne à pêche, tu vas passer quelques heures au bord du lac, et puis tu rattrapes des poissons, puis tu vas les vendre, et hop, plus de problème d'argent. Non? T'as des problèmes d'argent? Bah, tu bosses. Voilà. En y réfléchissant bien, je crois que c'est la seule fois, peut-être je me trompe, mais je crois que c'est la seule fois où Jésus fait un miracle pour son profit personnel et pour soulager son propre besoin. Je crois que c'est la seule fois dans toute la Bible. Si vous trouvez un autre endroit, dites-le moi, ça m'intéresse. Non, Jésus a fait ce miracle pour montrer à Pierre que lui, Jésus, est le maître de tout. Et il montre sa puissance. Et il montre sa connaissance miracle au sujet de tout. Qu'aucun homme sur la terre ne peut avoir une sagesse, une connaissance aussi extraordinaire. Il n'y a que lui. En faisant ce miracle, il ne s'abaisse pas à payer comme monsieur tout le monde. Ah ben non alors. Ah ben zut, on a oublié de payer l'impôt. Judas ?
Oui, maître.
Tu peux pas sortir 80 centimes de la caisse ?
Oui, maître, tout de suite, maître. Voilà, maître.
Bon, tiens, Pierre, va vite payer. Non. Non. Il fait au-dessus de ça, au-dessus de ça. Il montre sa supériorité sur le temple, parce que c'était 80 centimes, c'était pour le temple. Il montre sa supériorité sur le temple, sur le percepteur, sur Pierre, sur la bourse qu'ils avaient en commun, sur la mer, sur le poisson, sur le temps précis, sur tout. Il montre sa puissance sur tout. Et tout ça pour un starter, c'est-à-dire pour 80 centimes d'euros. Ah, c'est juif. Je trouve que c'est génial. Je trouve que c'est génial. Enfin, nous les Suisses et nous les Auvergnats, on n'a rien à leur envier. On remarque qu'il y a aussi des juifs idiots. Mais bon, il y a aussi des Suisses idiots. Je n'ai pas rencontré beaucoup. Jésus est Dieu. Il te connaît. Et il t'éprouve pour que tu saches à quel point tu l'aimes et jusqu'où il peut tirer la corde et que tu saches que tu es encore fidèle et toujours fidèle et encore et que tu lâcheras pas, que tu es fidèle malgré tout. Voilà pourquoi Jésus t'éprouve. Et puis en plus, il te met à contribution. Il fait pas tout lui-même. Il te laisse prendre tes responsabilités devant les gens du monde. Et il te sort d'affaire par un miracle qui t'oblige à faire une chose un peu bébête.
Trempe-toi 7 fois dans le Jourdain.
Il n'aurait pas pu faire autrement ?
Je n'ai pas envie. Il faut que tu te trempes 7 fois dans le Jourdain.
Un truc bébête. Va te laver les yeux à la fontaine. J'ai mis de la boue dessus, va te laver. Il n'aurait pas pu faire autrement, bien sûr, mais il n'avait pas envie. Il veut nous mettre à contribution.
Prends ce que ce gamin a à bouffer, là, les quelques pains, les poissons, là. Prends-lui.
Seigneur, prends ces affaires du gamin.
Ouais, prends les affaires du gamin.
Mais Seigneur, qu'est-ce qu'ils vont penser de moi ? M'en fous.
C'est terrible, hein ? C'est terrible. Jésus veut nous mettre à contribution, faire agir notre foi avec des choses un peu bébêtes. Avec des choses un peu bébêtes. Alors, les choses qui t'arrivent, les épreuves que tu as, un gamin qui n'arrête pas de crier, un machin, tout. C'est pas simplement un gamin qui n'arrête pas de crier pour t'embêter, c'est une épreuve pour voir jusqu'où tu vas pouvoir tenir dans ton calme, dans ta patience, qui est un fruit de l'esprit, etc., etc., etc. Tout, les petites choses comme les grandes, les machins à 80 centimes, comme les trucs à 2 millions. C'est comme ça, c'est comme ça. Va pêcher un poisson. Va pêcher ton poisson. Va faire ton truc bébête. Loue Dieu pour ton épreuve. Vous voyez, c'est comme ça. Mais il faut toujours se rappeler que ces choses ne sont pas au-dessus de nos forces. Elles sont juste au-dessus de notre entendement. C'est tout. Alors mettons notre gros derrière sur notre entendement, c'est-à-dire asseyons-nous dessus. Asseyons-nous sur notre intelligence qui peut peut-être se vexer, n'est-ce pas ? Asseyons-nous dessus et puis jetons notre entendement, notre fierté, notre intelligence, notre hameçon et pêchons notre miracle. Pêche ton miracle, prends ton stataire et vis une bonne vie. Amen. Amen. Merci Jésus. Merci Seigneur de nous inspirer ces choses, de nous montrer combien tu es grand. Et combien tu veux que nous sachions que nous sommes grands, nous aussi. Aide-nous, Seigneur Jésus, à tirer profit de toutes ces épreuves et de toutes les choses que nous faisons des fois un peu de travers, comme Pierre, quand il a pris l'autorité de répondre alors qu'il n'avait même pas à demander ton avis. Merci, Seigneur, de nous donner des chances de toujours nous en sortir, malgré les erreurs que nous faisons. Merci pour ta patience, pour ton amour. Et bénis chacun qui nous écoute ce matin. Merci Jésus. Amen.
Amen.
Bonne journée, bon dimanche, et à la prochaine, si vous le voulez bien. Merci.